On continue l'étude sur l'épître aux Galates. On est en train d'y aller bout par bout. On est rendu au chapitre 3, les versets 10 à 14. Puis l'apôtre Paul est encore en train de parler avec les Galatiens puis débattre sur le sujet entre la loi puis la grâce. Pour faire une histoire courte, je vous refais le résumé à chaque fois, que les églises de la Galatie, c'était un groupe d'églises. Il y avait plusieurs églises qui avaient été fondées par Paul. C'était tous des chrétiens nés de nouveau par le Saint-Esprit. Puis, ils avaient tous accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Puis là-dedans, il y avait des Juifs puis des païens. Puis au bout d'un certain temps, ça ne dit pas combien de temps, mais au bout d'un certain temps, les Juifs incitaient ils poussaient pour que les païens se fassent circoncire puis qu'ils retournent à pratiquer la loi de Moïse pour être sauvés. Pourtant, ils avaient tous été sauvés par la foi en Jésus. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Puis Paul leur a dit à date, là, depuis les trois premiers chapitres, au moins deux endroits, il dit, « Comment est-ce que vous l'avez reçu, le Saint-Esprit? L'avez-vous reçu avec la loi ou vous l'avez reçu par la prédication de la croix? » Puis, il devait avoir un retour là-dessus parce que c'est primordial que notre foi soit basée sur la bonne chose pour être sauvé, sur le sacrifice du Messie. Ah, est-ce qu'on doit retourner à la loi puis tomber à toutes les prescriptions de la loi pour être sauvé? Pas du tout. Les Juifs, comme les païens, sont sauvés par la foi en Jésus, on l'a vu à plusieurs reprises. Ce soir, on continue l'idée, parce que l'apôtre Paul continue de débattre du sujet avec d'autres idées, que Paul touche ici un sujet très important au niveau de la loi. Recevoir la bénédiction ou la malédiction de la loi. On va voir ce soir que quand tu retournes à la loi, tu retombes sur une malédiction si tu ne pratiques pas entièrement. Puis ça, c'est un gros problème que la loi apportait. Ce n'est pas un problème parce que Dieu voyait les choses d'avance. Il avait déjà décrété que le salut serait par la foi. Mais la loi a été donnée dans un but précis pour démontrer aux hommes comment est-ce qu'ils sont pécheurs. Mais qu'est-ce qu'on s'attend de la loi? Les gens de la Galatie, les gens de Galate, ils voulaient retourner à la loi, mais ils ne se rappelaient pas toutes les malédictions qu'il y avait dans cette loi-là. La loi de Moïse, la loi de Dieu, elle bénissait ceux qui la pratiquaient. Regardez dans Deutéronome, chapitre 11, les versets 26. Dieu les avait dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. » La bénédiction est à donner. Oui, ils mettaient devant eux la bénédiction et la malédiction, mais la bénédiction est à donner si tu mettais en pratique la loi. Si tu la mettais tout en pratique. Puis ça, c'est un petit détail que les gens qui s'engageaient dans cela avaient oublié. Parce qu'on le sait que personne qui a pu tout la mettre en pratique, sauf Jésus. Mais Jésus venait pas d'ici, il venait d'ailleurs. Les gens sur la terre qui ont essayé de pratiquer la loi, il n'y en a aucun qui a pratiqué toute la loi. La loi bénissait ceux qui la pratiquaient. Il dit, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction, la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez. Mais dans Galates, comme Paul y part, on est rendu dans Galates, chapitre 3, les versets 10, ça nous dit que la loi, elle maudissait ceux qui la transgressaient. En Galates 3, 10, ça dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi, et ne la met pas en pratique. Ça, c'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Si quelqu'un a l'intention, moi, je vais retourner à la loi de Moïse, je vais refaire l'alliance de Dieu de la loi, l'alliance de la loi, mais vous allez être bénis si vous la mettez toute en pratique, mais vous allez être maudit si vous ne la pratiquez pas entièrement, la loi de Moïse. C'est important. Dans la formule qui intégrait un homme à l'obéissance de la loi, parce que Dieu, quand il a fait l'alliance avec le peuple d'Israël, il a rassemblé tout le peuple d'Israël, puis là, il a donné les lois, puis à la fin de toutes les lois qu'il a nommées, il les avait toutes lues. Dans Deutéronome, le chapitre 27, les versets 15 à 26, on va vous lire ça tranquillement, puis vous allez voir l'impact de la loi, là. Puis les gens, hein, ils devaient répéter ce que je vous dis là, au fur et à mesure. Là, il y a une phrase qui va dire, le peuple la répétait, puis le peuple devait dire « Amen ». C'est comme si les gens s'engageaient solennellement devant Dieu de pratiquer toute la loi. Puis s'ils n'y avaient pratiqué pas au complet, mais ils allaient voir, ils tombaient sur une malédiction. Alors, regardez bien ce qui est écrit. Deutéronome 27, à partir du verset 15. « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. » Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Là, il dit, maudit soit l'homme qui en fait une, et le peuple répondra et dira, Amen. Ça veut dire que les gens, ils acceptaient de tomber sa malédiction. Cet engagement-là, il dit, maudit quiconque qui fait ça, le monde dit, Amen. Il embarquait, là, comme s'il était d'accord, d'être maudit s'il faisait une statue ou quelque chose de même. Puis on le sait que le peuple d'Israël se tournait vers les statues par la suite. Fait qu'il était tout engagé dans la loi, mais il tomba toute sa malédiction. On continue. Maudit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Encore engagé dans une malédiction. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Ça, c'est les terrains. Quand ils changeaient la ligne de place pour tromper, parce que les c'était arpenté comme au pif dans ce temps-là, mais ils mettaient des bornes, peut-être des roches, quelque chose, pour délimiter le terrain. Puis si un gars, il tossait les roches pour agrandir son terrain, puis il rapetissait celle de l'autre, il tombait sur une malédiction. Un autre place, il dit, et tout le peuple dira Amen. Au verset 18, « Maudit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur et la fille de son père, et la fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Les 613 préceptes de la loi. Maudit soit celui qui n'accomplit point. Ça veut dire que si tu transgressais un seul des commandements ou des 613 préceptes de cette loi, tu tombais sous la malédiction. Ce n'est pas des farces. Et qui ne la met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Fait que les gens qui s'engageaient à suivre cette alliance-là, il s'engageait à tomber sur une malédiction s'il n'y avait pas à 100% tout observé. Combien de personnes vous pensez qui n'ont pas été maudits par Dieu? Zéro. Il y a juste Jésus qui a tout accompli la loi sans transgresser un seul péché. L'ensemble de l'humanité ont désobéi à un des 613 préceptes. Paul, il essaie de lui faire amener ça dans l'idée, là. Il dit, dans la loi, là, ça maudissait, Galates 3:10, que Jésus, tantôt, ça dit, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de loi. » Fait que Si, il dit aux Galatiens, si vous voulez lâcher la foi en Jésus puis retourner à la loi, vous allez retomber sa malédiction. Automatiquement, parce que tu ne peux pas tout mettre en pratique. Puis c'est ce verset-là que Galates 3:10 nous a dit, « Maudit celui qui n'observe pas tout », bien, on l'a lu dans le verset 26 de Deutéronome, qui dit, « Maudit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi puis qui ne la met pas en pratique. » Fait que tous ceux qui ont l'intention de se faire circoncire puis de commencer à dire, « Je vais gagner mon ciel en pratiquant la loi », tu vas tomber sur une malédiction automatiquement. C'était de même que le peuple d'Israël était, puis c'est de même que l'ensemble de l'humanité qui n'ont pas la loi, ils ne sont pas engagés envers la loi, mais ils démontrent qu'ils ont la loi d'inscrite dans leur cœur, c'est la même affaire. Tu tombes comme étant un transgresseur. Tu tombes sous le jugement de la loi. Par la loi de Moïse, tout le monde réalisait qu'ils étaient tous pécheurs. Ça garde tout le monde en culpabilité. Tout le monde l'ont désobéi à quelque part, puis tout le monde sont maudits de la part de Dieu. S'ils essayent de gagner le ciel par la loi, c'est ceux qui sont déjà perdus en commençant. Dans Romains 3:19, ça dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Fait que si quelqu'un il lâche le Seigneur en retournant la loi de Moïse, il est fait. Ça, Paul l'a bien expliqué dans Galates. C'est important que ça ne nous vienne même pas à l'esprit d'essayer de retourner à la loi. De toute façon, avant la loi, le Seigneur avait déjà déclaré que les gens deviendraient justes que par la foi. Avant la loi, ça avait été dit à Abraham. Dans Galates 3:11, ça dit, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Fait que ça avait été déjà déclaré, le juste vivra par la foi, avant que la loi vienne. Fait que Dieu avait déjà déclaré que ceux qui seraient sauvés, c'est ceux qui marchent par la foi, comme Abraham, le croyant. Puis la loi, quand elle est venue, elle apportait quoi? Elle apportait que la malédiction. Il y avait une prophétie d'Habacuc, dans le livre d'Habacuc, puis ça a rapport avec ce qu'on voit là présentement. Ça dit que si un homme cherche à se penser juste par eux-mêmes, là, si un homme, une personne humaine, pense à se penser juste par elle-même en pratiquant la justice, puis elle se pense assez bonne pour gagner le ciel là, par sa propre justice, bien, elle n'est pas droite devant Dieu. Parce que le salut n'est pas donné à ceux qui se croient justes parce qu'ils marchent d'une bonne façon. Le salut est donné à ceux qui marchent par la foi. Dans Habacuc 2:4, ça dit, c'est une courte phrase. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant lui. » Si tu t'enfles d'orgueil puis tu penses que c'est toi qui l'accomplis puis tu gagnes ton ciel, mais ça dit, « Elle n'est pas droite en lui. » Son âme. Et on pense croche, penser de justifier par nous-mêmes. Mais ça dit, tout de suite dans le même verset, « Mais le juste vivra par sa foi. » Fait que c'est pas une question de dire, « Il faut que je fasse une bonne vie en pratiquant la loi que je vais gagner mon ciel. » Ça marche pas, ça. Le juste, ça va être celui qui marche par sa foi. C'est dans la foi en Dieu qu'on est sauvé, non pas par notre propre justice qu'on essaierait d'établir en la pratiquant par la loi. La loi n'a rien à voir avec la foi. C'est deux choses complètement différentes. Dieu l'a dit qu'il sauverait les gens par la foi. La loi est arrivée, mais ça n'a aucun lien ensemble, sauf que démontrer deux fois plus que les gens y étaient perdus. C'est deux chemins complètement différents, puis c'est ce que Paul dit dans Galates au chapitre 3, le verset 12. « Or, la loi ne procède pas de la foi. » Mais elle dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Fait que la grosse différence qu'il y a entre marcher par la loi puis marcher par la foi, c'est que la loi, le salut est par nos œuvres. Tandis que la foi, c'est la foi d'avoir une ferme assurance que le Messie a payé pour nos péchés. C'est ça qui a la différence. Complètement différent. Il y en a un que c'est, tu gagnes ton ciel parce que tu accomplis les choses, mais si tu manques ton coup, une fois dans toute ta vie, sur tous les 613 préceptes, tu es perdu. Puis la Bible, elle dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Fait que, tandis que la foi, c'est même après avoir accompli plein de désobéissances, on puisse par la foi obtenir le pardon pour obtenir le salut à cause de l'œuvre de Jésus qui est mort pour pardonner nos péchés. Fait que c'est deux mondes différents. Puis c'est ça qui fait la même chose aujourd'hui dans les religions. La plupart de toutes les religions pensent de gagner le ciel par leurs bonnes œuvres. La religion catholique, c'est ça. Les musulmans, c'est la même affaire. Tout le monde, les religions, c'est comme les hindouistes ou les autres qui parlent du karma, puis il faut que tu améliores ton karma. Donc, par tes œuvres, tu vas arriver à avoir un karma qui te permet d'aller dans le paradis. Mais ça, c'est toutes des faussetés que tu penses de gagner ton ciel. Tandis que Dieu, il a tout mêlé les cartes, il a dit « c'est pas de même que j'allais être sauvé ». C'est « j'envoie mon fils, il va mourir pour pardonner vos péchés, puis c'est, j'ai décidé de sauver le monde par la foi ». C'est ça que Dieu dit. C'est votre foi dans le Messie qui va faire que vous allez être sauvés. Puis tous vos efforts humains pensant à gagner quelque chose, si tu t'enfles puis tu penses que tu l'as l'affaire puis que tu vas gagner quelque chose, tu es perdu. Même si tu es un chrétien pendant toute ta vie, puis à un moment donné, tu commences à croire que c'est toi qui mérites ton ciel parce que tu es un bon chrétien, tu es en train de te perdre. Parce que ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est notre foi en Jésus. Nos œuvres ne sont que pour démontrer notre foi. Mais c'est notre foi qui nous sauve. Tu démontres ta foi par tes œuvres, mais tu ne gagnes pas ton salut par tes œuvres. Il y a une grosse différence. Tu démontres au Seigneur que tu l'aimes quand tu obéis. Tu ne gagnes pas ton ciel. Tu es en train de montrer tout simplement que tu crois en lui puis tu l'aimes. Fait qu'on sert le Seigneur pour lui montrer qu'on l'aime, pas pour gagner notre ciel. Puis c'est ça qui fait la différence entre suivre une loi ou marcher par la foi. Puis nous, on sait le salut par la foi au Messie. C'est important ce que je vous dis là. C'est la clé. Le juste va vivre par sa foi. Puis dans le Nouveau Testament, c'est la même idée. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Faut que tu aies de la foi si tu veux être sauvé. Si tu es comme Jean-Baptiste, puis tu commences à te demander, c'est-tu vraiment Jésus qui sauve? Bien, Jésus, lui, il déclare que tu perds la foi quand tu penses comme cela. C'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Il a envoyé quelqu'un dire, allez dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il est en train d'avertir Jean-Baptiste, arrête de douter, là. Tu es en train de tomber d'une occasion de chute en me regardant. Tu es en train de plus croire que c'est moi le Messie. Jean-Baptiste, il avait annoncé que Jésus, c'était le Messie. Mais en dernier de sa vie, là, 2-3 ans plus tard, il doutait, puis il ne savait même plus si Jésus était le Sauveur. Puis là, tout de suite après, Jésus se revirait. Il dit, le plus petit dans le royaume, il est plus grand que lui. Pourtant, Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il avait eu un appel prophétisé dans l'Ancien Testament qui sera envoyé au-devant de Jésus. Il a annoncé Jésus. Son ministère, c'était de préparer le terrain avant la venue de Jésus. Il savait que s'il voyait l'Esprit descendre sur lui, il savait que c'était lui qui baptiserait du Saint-Esprit. Il l'annonçait à tout le monde, puis 2-3 ans après, il était sur un dangle quand il est dans en prison, puis il ne savait même plus si Jésus était le Seigneur. Mais c'est un avertissement pour nous, frères et sœurs. Nous, on ne peut pas penser de même. On doute. C'est-tu vraiment Jésus qui est le Sauveur? Non. On ne peut pas être comme cela. Il dit, plus petit dans le royaume va être plus grand que Jean-Baptiste. On a à déclarer par la foi que c'est par notre salut, c'est par la foi en Jésus. C'est l'œuvre de Jésus qui nous sauve. Puis n'ayons pas de doute là-dessus. C'est cette foi-là qu'il faut garder jusqu'à la fin, puis pas se laisser. Mettons, comme c'est arrivé dans certains pays, j'ai vu ça, c'est arrivé dans le temps des premiers apôtres aussi. Il y a du monde qui forçait les gens à blasphémer et à renier Jésus. Mais reniez pas votre foi. Gardez votre foi jusqu'à la fin. Continuez à confesser que c'est Jésus qui nous sauve. C'est son œuvre à la croix, son sang qui a été versé, c'est la nouvelle alliance en son sang. C'est cette alliance-là qu'on veut, pas celle de la loi. On veut l'alliance de la foi par le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. La loi ne justifiait personne. Justifier, c'est rendre juste. La loi ne pouvait pas rendre personne juste parce que la loi dit qu'il fallait que tu mettes tout en pratique, toute ta vie pour réussir à être juste. Mais il n'y a pas de juste, pas même un seul, que la Bible a dit aussi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il y a juste Jésus qui a réussi à vivre une vie sans péché. Les autres ont tous transgressé. Fait que la loi ne justifiait personne, puisque personne ne pouvait la mettre totalement en pratique. Tous étaient tombés sous la malédiction de la loi. Et tous avaient besoin de quelqu'un qui les sortirait de cette malédiction-là pour être sauvés. Parce que ce n'est pas tout, mettons, comme on parle, que les gens ont désobéi, à un moment donné, ils prennent conscience de la loi, puis à partir de ce moment-là, ils se disent, moi, je vais commencer à mettre la loi en pratique au complet, là, pour le reste de ma vie. Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec ta dette que tu as déjà, parce que tu as désobéi pendant X années? Tu es sur une malédiction, là. Tu ne peux pas te sortir toi-même d'une malédiction. Tu es déjà un maudit. Un maudit, c'est quelqu'un qui est excommunié, qui est sorti de la communion avec Dieu. Tu es jeté dehors, tu n'es plus sauvé. Fait que tout le monde qui essayait de rentrer au ciel par la pratique de la loi, ils tombaient sur une malédiction que Dieu les rejetait, point final. La seule manière de sortir de la malédiction, fallait que quelqu'un prenne cette malédiction sur lui, quelqu'un d'innocent qui accepterait de prendre la malédiction de tout le monde sur lui. C'est ce que Jésus a fait. C'est quelque chose, cela. Regardez dans Galates 3:13. Il continue à expliquer ça aux Galatiens. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Ça, ici, on voit une vérité spirituelle. On sait que Jésus a pris nos péchés en son bois puis a expié nos péchés. Il a accepté d'être frappé puis d'être mis à mort pour nos péchés, mais pas juste pour nos péchés. Il fallait qu'il prenne d'être maudit par Dieu. Maudit, c'est rejeté, tombé complètement séparé. C'est pour ça que Jésus était à sa croix puis il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a vécu un moment, ça ne dit pas combien de temps, mais il a subi la malédiction. Il était rendu un maudit par Dieu. À notre place, il a pris, étant devenu malédiction pour nous. Ça veut dire que lui, il n'aurait jamais dû vivre d'être séparé de son Père. Jamais. Il n'a jamais fait de péché. Mais il a accepté de vivre ce moment-là pour prendre notre malédiction qui était à cause qu'on transgressait la loi. C'est quelque chose. Il fallait qu'il devienne malédiction lui-même. Un maudit lui-même. La loi avait, je pourrais expliquer que la loi, c'était déjà prévu dans la loi. Regardez bien le prochain verset dans Deutéronome 21, chapitre 21, versets 22 et 23. La loi, il avait déjà déclaré qu'un pendu au bois est un objet de malédiction pour Dieu. Dieu a dit dans sa loi, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, il fallait qu'il ait commis un crime digne de mort pour être crucifié. » Jésus n'a jamais fait de crime digne de mort, mais il a accepté d'être crucifié pour payer les crimes dignes de mort, nos crimes à nous dignes de mort. Il dit, si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Fait que quand tu crucifiais quelqu'un, tu venais de le faire maudit devant Dieu parce que la loi le maudissait, celui qui était pendu au bois. C'était déjà prévu un plan dans la loi pour amener que Jésus puisse être déclaré maudit par Dieu à cause qu'il était pendu au bois. Fait que quand les gens l'ont pendu au bois, ils ne savaient pas qu'il était en train de le rendre maudit, lui qui était sans péché, ça a permis qu'il prenne la malédiction de tout le monde à notre place. C'est fort. Dieu avait tout prévu l'histoire avant qu'elle commence. Est-ce que vous comprenez le point? C'est que Jésus, il est devenu un maudit en étant accroché sur le bois parce que la loi avait déjà déclaré celui qui va être crucifié, il est rendu un maudit. Puis c'est encore pire, là, c'est qu'une fois que tu es déclaré maudit, aussitôt que tu meurs, il fallait qu'on t'enterre parce que ça l'amena aussi à maudire le pays. Amener une malédiction dans le pays, il fallait que tu clignes la place le plus vite possible, autrement dit. C'est pour ça qu'ils ont décroché Jésus. Tout était prévu, puis ils l'ont mis dans le sépulcre. Le fait que Jésus a accepté d'être pendu au bois, il acceptait de devenir maudit à notre place. Lui qui était sans péché, il a accepté de prendre notre malédiction et notre châtiment pour nos péchés. Fait que le fait, il a été déclaré maudit pendant le temps accroché sur la croix. En plus, toutes les souffrances, les coups, les baffes, les crachats, les humiliations, tout ce qu'il a souffert et qu'il a été blessé, c'était pour nos péchés. Il était frappé pour nos iniquités. Chaque fois qu'il a mangé des coups de bâton, des coups de fouette, des coups de poing d'en face, toutes les blessures qu'il a eues, c'était pour nos péchés. Quand il était accroché, il est devenu un maudit. Il était abandonné de son père pendant un moment. Puis à cause de que la malédiction était sur lui. Il fallait qu'il paye pour nos péchés et notre malédiction. Il a pris notre malédiction afin qu'on l'on reçoive la bénédiction de Dieu donnée à Abraham, le croyant. Le fait qu'il prenne la malédiction, non seulement ça nous enlève notre malédiction, mais ça nous permet de recevoir la bénédiction d'Abraham, le croyant. Tu marches dans la foi, dans les traces d'Abraham, le croyant, tu marches dans la foi, il t'enlève ta malédiction puis il te donne la bénédiction d'Abraham. C'est fort. Dans Galates 3,14, ça dit qu'il venait de lui dire que Christ était maudit, pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Fait que quand tu tombes sur la bénédiction d'Abraham, parce que là, t'es comme un descendant d'Abraham à cause de la foi, pas à cause de la... Tu es un descendant selon la chair. À cause de la foi, un païen peut recevoir l'Esprit-Saint. C'est fort. C'est une bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit au bout. Fait que quand tu viens à Jésus, il t'enlève tous tes péchés, il t'enlève ta malédiction, puis en plus, il te donne la bénédiction, puis ça te permet de recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit avait été promis avant que Jésus vienne qu'on le recevrait suite à l'œuvre du Messie. Ça nous a été permis de recevoir le Saint-Esprit qui est une promesse due à l'œuvre du Messie. On voit ça dans Joël, dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Quand il dit « sur toute chair », ça veut dire que ce n'est pas juste pour les Juifs. C'est aussi pour les païens de recevoir son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Fait qu'à cause de l'œuvre de Jésus, on est libéré de nos péchés, de la malédiction, on reçoit la bénédiction d'Abraham, on reçoit le Saint-Esprit. Puis là, est-ce qu'on va être comme les gens de Galate, qu'on n'est plus sûr d'être sauvé par la foi, qu'on pense qu'on va retourner à la loi? Voyez-vous, c'est ça que Paul essaie, assez poumonné, comme qu'on dirait, essayer de les convaincre de ne pas retourner à la loi, pour les garder dans la foi dans le Messie. C'est dans la foi dans le Messie qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Donne-nous de marcher par la foi continuellement jusqu'à la fin, qu'on n'ait pas le désir d'essayer de se penser bon puis de gagner notre ciel par nos œuvres. Pardonne-nous toutes ces mauvaises pensées-là, Seigneur, puis garde-nous dans l'humilité, garde-nous dans la foi, dans l'œuvre accomplie du Messie. Amen.